Bonjour. Très heureux d'être parmi vous. Et c'est un souvenir, ce sont des souvenirs, car avec l'église de Lambersart, on a eu beaucoup de contacts. Quand on était à Bethléem, l'équipe des jeunes venait toujours pour chanter, pour apporter leur participation aux petites fêtes qu'on faisait à Bethléem. Il est vrai qu'ils étaient attirés parce qu'on faisait un barbecue. Mais enfin bon, il faut tout pour faire. Hein, il faut. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de la part du Seigneur. Et je vais commencer par lire un passage dans les psaumes. Il est beau, psaume 92, « Il est beau de louer l'Éternel ». Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis de tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. En effet, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour lui apporter la louange qui lui est due. Et puis, on passe au verset 13, si vous voulez bien. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Cette deuxième partie m'a inspiré et je voulais vous dire, pour résumer, qu'on va parler des fruits de l'esprit, de porter du fruit. Et la phrase clé de cette prédication, c'est « Il ne suffit pas d'être un arbre dans le jardin de Dieu, mais aussi il faut porter du fruit. » Il ne suffit pas d'être dans une assemblée chrétienne et puis d'être là inutile, disons, portant rien. Alors, pour illustrer cette phrase, je vous propose de lire dans Matthieu au chapitre 13, un petit verset d'une phrase qui était prononcée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prévenait les pharisiens et les sadducéens, enfin les anciens de la religion, qui se faisaient baptiser. Ils se faisaient baptiser, mais il n'y avait pas chez eux de la repentance. Ils faisaient ça par habitude ou pour faire comme tout le monde. Et il disait donc, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est un peu dur, mais c'est ce que Jean-Baptiste apportait, et il est évident que faire semblant, ce n'est pas la peine. Appartenir à une religion, ça ne sert à rien du tout. Être comme un enfant de Dieu et ne pas en avoir le cœur, l'intérieur qui est transformé, ce n'est pas la peine. Et c'est vrai que ceux qui venaient se faire baptiser devaient manifester des fruits, produire le fruit de la repentance, avoir un petit peu un changement de vie, un changement d'attitude, un changement de pensée. Il fallait qu'ils portent du bon fruit et non pas n'importe quoi. Il fallait qu'on remarque quelque chose. Et Jean-Baptiste remarquait qu'il n'y avait pas beaucoup de changements parmi ceux qui venaient se faire baptiser. Je vous propose dans Luc chapitre 13 la parabole du figuier, au verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Dieu a parfaitement créé l'univers, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Rien n'est inutile, ni le figuier, ni quoi que ce soit, ni personne. Et le figuier improductif doit disparaître, à moins que le vigneron intervienne, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe, à moins qu'on l'aide à produire du fruit. Et alors, le vigneron dit, j'y mettrai du fumier et je creuserai tout autour. C'est-à-dire, il va essayer de lui donner un peu de tonus, de lui permettre de reprendre une bonne racine, de bien s'enfoncer dans la terre et de pouvoir produire à la fin du fruit. Et sinon, tu le couperas. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui est juge. Mais il y a sur terre, il y a dans les cieux, je veux dire, quelqu'un qui nous sert d'avocat. Il y a quelqu'un qui travaille pour nous. Quelqu'un qui donne à Dieu notre position et qui prie pour nous. Alors, ça fait penser à deux choses. La première chose, c'est que c'est important qu'on s'aide les uns les autres à s'épanouir, à grandir, à s'édifier dans le Seigneur, qu'on ne laisse pas quelqu'un sur le côté parce qu'il ne porte pas de bons fruits. Alors, c'est pas un bon chrétien, on va le laisser tranquille. Au contraire, il faut que nous soyons remplis d'amour les uns pour les autres et essayer de nous aider et de nous apporter les uns aux autres la possibilité de grandir et de s'édifier dans le Seigneur. Et puis, nous avons aussi cette deuxième pensée qui est que Jésus est un avocat dans les cieux et pour nous, et qu'il prie pour nous et qu'il nous justifie auprès de Dieu parce que nous lui appartenons. On peut aussi se souvenir de ce qui s'est passé lorsque Jésus s'est trouvé devant un figuier qui avait une belle apparence, il y avait des feuilles. Il est arrivé, il a cru y trouver du fruit et il n'en a pas trouvé. Alors, il l'a maudit. Matthieu chapitre 21. C'est intéressant de savoir quand même qu'on ne rigole pas avec Dieu. On doit être honnête envers lui et il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Nous devons donc être fidèles et clairs pour faire sa volonté et être selon sa volonté. Matthieu chapitre 21, versets 18 et 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi ». Et à l'instant, le figuier sécha. Voyez donc, il faut faire attention au moment où nous allons être devant le grand juge. Il faut être toujours prêt. Il faut toujours. Et puis, il faut, comme dit l'Éternel à Samuel lorsqu'il devait choisir un roi, Dieu, l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Alors, méfions-nous de la façon dont nous sommes, parce que il faut que ce soit le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous vivons exactement. Alors, je vais vous raconter une histoire. Une petite histoire, elle n'est pas longue, et elle est très, très édifiante pour comprendre ce qui se passe. C'était une église, une très belle église. Elle était belle. Oh, et les gens venaient à l'église et en même temps, ils voyaient ce bâtiment qui était bien entretenu, qui était propre, qui était beau. C'était encourageant. Ça dénotait que cette église était en bon état. Et donc les apparences étaient là, c'était formidable. Mais Mais dans cette église, il y avait particulièrement un élément qui n'était pas satisfait. Un élément qui faisait son travail, mais il n'y a personne qui le regardait, il n'y a personne qui s'occupait de lui, on ne faisait pas attention à ce qu'il était là. Vous savez qui c'était ? C'était un clou dans l'ardoise de la toiture. Il était là et personne ne s'inquiétait de lui. Et il était là. Alors, il essayait de se montrer. Il est sorti un petit peu, il a monté sa tête, une tête de clou plate, là, vous voyez. Il était là, puis personne ne s'occupait de lui. Puis il a tellement essayé d'être fier et qu'on s'occupe de lui, qu'il est tombé. Il est sorti complètement, et puis il est tombé. Il est par terre, il n'est plus par terre, il n'y a personne qui s'est occupé de lui. Personne ne s'en est inquiété. On a marché dessus, même probablement, et voilà. Mais le résultat, c'est qu'il manquait un clou. Il manquait un clou et l'ardoise a commencé à bouger, surtout quand il y a eu du vent, quand il y a eu des intempéries. Et puis finalement, il y a eu une petite infiltration d'eau. Et puis ça s'est agrandi. Vous savez comment ça se passe quand il y a des infiltrations d'eau. Les poutres sont imbibées, les murs commencent à être remplis d'humidité, les revêtements se fendillent. Enfin, c'est un petit peu à la fois, cette église a perdu de sa solidité. Il y a des champignons qui ont poussé aussi dans les poutres. Et puis finalement, la toiture s'est affaissée. Et puis il y a eu des infiltrations d'eau dans tous les coins. Et puis c'est devenu une ruine. Une ruine parce que un élément n'était plus à sa place. Il manquait quelqu'un. Et ça, c'est important. C'est important parce que nous sommes les pierres vivantes du corps de Christ. Nous sommes l'Église de Christ et nous avons notre place. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens ce que l'apôtre Paul en dit. C'est bien connu. 1 Corinthiens au chapitre 12. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », etc. Là, nous sommes les membres du corps de Christ et nous avons tous une utilité. Christ est la tête, nous sommes le corps et Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, pour tous ses enfants, une place, un endroit où il est placé, où il est utile et où il est efficace. C'est là que nous devons être les uns et les autres. Il est important que nous soyons à notre place, dans l'humilité, mais aussi dans la confiance que nous sommes utiles au royaume de Dieu, parce qu'il nous a placés là, eh bien, nous devons agir là où nous sommes. Nous sommes les pierres vivantes de l'édifice de Christ. Et pour cela, je voudrais vous lire aussi dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 4 et 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, etc. » Nous faisons partie d'un édifice saint. Nous faisons partie d'un édifice spirituel qui est construit à la gloire de Dieu. Nous devons tenir compte de cela. Et dans cette pensée, en toute humilité, nous devons être et nous devons paraître à la vue du monde destinés à annoncer les vertus de Dieu. Nous ne sommes pas là pour notre satisfaction personnelle, nous sommes là pour louer l'Éternel, pour le glorifier et pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer les vertus de Dieu et particulièrement le salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous plairons à Dieu si nous sommes exactement à notre place. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous rayonnons, comme cette église qui était belle, elle rayonnait et elle attirait le monde. Eh bien, il faut que nous attirions le monde par notre beauté spirituelle, notre beauté intérieure, dans l'humilité. Nous avons chacun notre place, les uns pour ceci, les autres pour cela, mais à notre place, nous sommes utiles et efficaces. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'église de Christ, Christ est la tête, nous en sommes les membres, nous sommes des pierres vivantes et nous devons garder notre place et être utiles au service de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il est écrit, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il y a déjà cette place, l'amour filial, l'amour fraternel, je veux dire, l'amour de Dieu qui descend sur nous. Nous aimons le Père et nous nous aimons les uns les autres parce qu'ensemble, nous formons un corps. Ensemble, nous formons un bâtiment, un édifice à la gloire de Dieu, un édifice sanctifié pour produire du bon fruit. C'est le désir de Dieu que nous puissions être producteur d'un bon fruit, que nous soyons utiles à son royaume et que nous soyons représentatifs de la gloire de Dieu sur la terre. Jean-Baptiste, encore pour revenir à lui, disait « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et Jésus aussi disait à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde. » Et plus tard, chapitre 1 des Actes des Apôtres, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan de Dieu que son Église rayonne, que nous soyons des témoins et que l'on voit en nous la gloire de Dieu qui se manifeste, la bonté de Dieu qui se manifeste. Alors, il y a la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Il y a aussi ceux qui sont parmi nous, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont reçu cette puissance d'en haut. Et ça doit se manifester par du bon fruit, bien sûr. Alors, comment faire ? Quel fruit allons-nous porter ? C'est pas difficile, c'est écrit dans la Bible. Moi, j'ai vu qu'il y avait le fruit de la lumière. La justice, la bonté et la vérité. C'est écrit dans Éphésiens au chapitre 5, verset 9. Et puis il y a aussi le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit que l'on trouve énuméré dans Galates au chapitre 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, etc. Donc, nous avons un but merveilleux à atteindre. Un but merveilleux, mais difficile aussi à atteindre. Parce que c'est tout un programme, hein, d'avoir de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. C'est quelque chose. Mais c'est là que l'on manifeste la gloire de Dieu. Quand on porte du fruit, tel que tous ceux que l'on vient d'énumérer. Alors comment faire ? Comment faire ? Parce que ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est pas facile, mais c'est simple quand même. Dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 14, il est écrit « Sanctifiez-vous de jour en jour ». Sanctifiez-vous de jour en jour. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est important. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et l'apôtre Pierre nous écrit ceci, d'ailleurs, pour cette raison, qu'on peut lire aussi dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, donc à cause de cela. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et si elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important pour nous. Il nous faut progresser. Il nous faut grandir dans la connaissance de Dieu. Il nous faut vraiment produire un bon fruit et glorifier notre Dieu par le fruit que nous portons. Alors, comment faire ? Comment faire ? Eh bien, ouais. D'abord, j'ai quelques petites idées là. La première chose, c'est mettez-vous à part pour Dieu, lisez et méditez les Écritures, qui est la parole de Dieu. Alors, je vous reporte au psaume numéro 1. Je peux difficilement me séparer de ce psaume. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Se mettre à part. Nous ne sommes pas du monde. Nous y sommes dedans, mais nous n'en faisons pas partie. Il faut savoir prendre ses marques et être à sa place. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est une phrase qui est étonnante. Tout ce qu'il fait réussit. Eh bien, si nous agissons selon le plan de Dieu, si nous faisons la volonté de Dieu, si nous sommes bien dans le plan de Dieu, exactement, parfaitement, alors nous allons réussir. Si nous ne réussissons pas, c'est que nous ne sommes pas tout à fait dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose, mais nous ne sommes pas parfaits. Et il faut bien se dire que si nous ne réussissons pas quelque chose, il ne faut pas se culpabiliser. Mais il faut chercher la solution, il faut se rapprocher de Dieu et écouter sa parole. Il faut faire, deuxièmement, pleine confiance en Dieu. C'est la foi. La foi est indispensable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, est-il écrit dans Hébreux 11, 6. Et puis, il faut être dans l'intimité de Dieu. Il faut savoir se mettre à l'écart, par la prière, à l'écoute. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Ce sont des choses importantes, et se laisser finalement remplir du Saint-Esprit. Donc, se mettre à part ayez confiance en Dieu, être dans son intimité, c'est-à-dire avoir une communion avec Dieu, savoir se mettre à l'écart pour prier Dieu, pour être avec lui dans l'intimité et dans la connaissance, c'est écrit aussi dans Matthieu chapitre 6, et laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Éphésiens au chapitre 5 nous dit ceci. Verset 19. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, toujours dans l'humilité, dans la conscience que les autres sont là aussi avec nous et que nous ne pouvons pas agir séparément, mais que nous formons un tout, le corps de Christ. Alors, quel fruit produisez-vous? J'ai marqué, je vais vous poser la question, quel fruit produisez-vous? C'est le moment d'y penser. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. C'est écrit aussi ça. C'est pas n'importe quoi qui pousse sur un arbre, sur une plante. Évangile de Luc au chapitre 6. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines, on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Jésus a passé 40 jours au désert après son baptême. Il était en communion avec son Père, il était en communion avec Dieu, et il y a eu des échanges. Il a reçu les instructions de Dieu, il a reçu la force de Dieu, il a reçu de son Père tout ce dont il avait besoin pour son ministère. Le peuple d'Israël, il a passé 40 ans dans le désert pour apprendre la discipline, pour apprendre la loi que Moïse lui avait donnée de la part de Dieu. 40 ans dans le désert. Alors, moi j'ai pensé, j'ai entendu aussi que dans le désert, on n'entendait rien. Dans le désert, c'était tranquille. Dans le désert, on n'était pas distrait par quoi que ce soit, il n'y a rien. Alors on est prêt à entendre Dieu. On est prêt à être à l'écoute de Dieu, à entendre la moindre parole de Dieu, la moindre pensée de Dieu qui vient dans notre cœur. Tout cela, c'est pour vous dire que Il est bon pour les uns et pour les autres d'avoir de temps en temps un petit désert à traverser. Non pas que je souhaite des épreuves, ce n'est pas une épreuve, c'est un temps que vous, chacun d'entre nous, nous pouvons mettre à part pour un temps. Ça peut être une heure, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être un temps. Tout ça, c'est à chacun de le décider. Mais le principal, c'est d'être seul à seul avec Dieu, sans aucune distraction, d'être vraiment à l'écart du monde, de nos habitudes, des bruits, des téléphones, par exemple, et puis d'autres choses. En tout cas, soyez là où Dieu vous veut. Soyez là où Dieu vous veut. Donc, sachez où Dieu veut que vous soyez. Et soyez là où Dieu vous veut et faites alors sa volonté. Et alors, vous porterez beaucoup de fruits à la gloire de votre Dieu, de votre Créateur, de votre Sauveur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et recevez ce qu'il faut pour agir et porter du bon fruit à la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous as tout donné. Tu nous as donné la vie. Tu nous as rachetés. Nous t'appartenons pour deux fois, Seigneur, parce que ton Fils Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix du calvaire. Alors nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, d'être des bons éléments dans le corps de Christ. Nous te demandons de nous fortifier, de nous édifier, de nous parler. Nous voulons aussi, Seigneur, mon Dieu, nous mettre à l'écoute, parce que nous sommes absorbés par beaucoup de choses dans ce monde et nous voulons nous retirer pendant un temps pour que tu puisses nous donner tes instructions. Seigneur, ce que nous désirons, c'est porter du fruit, du bon fruit. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est d'être agréable à ta grandeur, agréable à ta majesté. Tu es notre roi, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. Et en attendant ton retour, Seigneur, mon Dieu, nous voulons annoncer tes vertus à ceux qui nous entourent. Nous voulons annoncer ce sacrifice merveilleux consenti par Jésus-Christ. Dieu est venu à notre rencontre afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Il est venu et il a donné tout. Son sang a coulé pour nous. Son sang peut nous purifier de tout péché si nous croyons en lui, si nous croyons en ce sacrifice merveilleux. Merci, Seigneur mon Dieu, de tout ce que tu as accompli pour nous. Te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous remplir maintenant de ton Saint-Esprit de force, d'amour et de sagesse, afin que nous allions et que nous portions du fruit, Seigneur mon Dieu. Merci de ta grâce, gloire, puissance et honneur à toi, Seigneur. Amen.